mais quel bon moment de cyclisme nous offre le coureur Total Énergie.
Ah ça oui mon Richard, quel braquet incroyable.
Il est clairement en train de revenir, prêt à relever tous les défis.
Avec un tel soutien du public pour l'équipe Total Énergie, ça donne des ailes.
Toutes les énergies du sport nous rassemblent. Le meilleur du cyclisme se vit avec Total Énergie.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Vous écoutez
RMC.
Génération After, merci d'être avec nous. Vous écoutez RMC, bien sûr. Il est 20h34 avec Kevin Diaz, Valéda Cherchour et notre invité Maxime Chanot. 70 sélections avec le Luxembourg sur le terrain hier face à l'équipe de France. On poursuit notre débat. Quelle est la meilleure animation offensive pour les Bleus? J'accueille Damien au 32-16. Salut Damien.
Salut messieurs, bonsoir à tous.
Merci de ta patience.
Ouais, pas de souci. Il n'y a pas de problème. Surtout quand il s'agit d'attaque des Bleus et de parler de quelque chose d'intéressant, donc pas de problème.
Alors, quelle est ton animation offensive? Donne-moi tes trois noms, toi, voire les quatre, si tu associes Griezmann, bien sûr.
Les trois noms, c'est forcément Dembélé, Mbappé, Giroud. Tout simplement parce que pour moi, c'est l'attaque la plus complémentaire, celle qui peut vraiment faire le plus de mal aux défenses. Vous l'avez parlé de Marcus Thuram, mais Marcus Thuram, on sait déjà qu'il n'est pas venu au PSG et qu'il a choisi l'Inter parce qu'il a dit dans des interviews qu'il préférait jouer avec des attaquants. Avec un attaquant à côté de lui, en soutien, avec du profil de Lautaro Martinez, ce qui n'est pas le profil de Mbappé, par exemple, du tout. Donc, dans ce 4-3-3, c'est sûr que c'est pas la meilleure des choses de jouer avec Marcus Thuram en pointe. Mbappé, moi, je suis pas fan d'Mbappé en pointe. Je l'ai vu toute la saison au PSG et du coup, je préfère quand il est sur le côté. On l'a vu hier encore, hein, toutes les actions où il était dangereux, que ce soit le but, les passes des, etc., c'est quand il est sur le côté gauche. Donc, moi, je suis pour cette attaque et surtout que Giroud, il apporte quand même énormément collectivement au jeu de l'équipe de France, que ce soit dans l'animation défensive que veut Didier Deschamps, mais aussi dans la possibilité de remonter le ballon. Et quand on est dans la surface, il pèse énormément et il peut jouer les ballons de la tête. On l'a rappelé, vous, ce match contre l'Angleterre où c'était très compliqué, bah, c'est lui qui va mettre son coup de tête pour nous qualifier. Donc, c'est le meilleur buteur des Bleus. Même si effectivement, Walid l'a dit, il n'est pas forcément titulaire sur la dernière année. Mais là, je pense que sur une grande compétition, il sera encore présent, il répondra et il sera au top niveau. Je pense,
j'ai les titularisations de Giroud là en équipe de France. Donc il y a France-Écosse le 4-1, qui était le deuxième match. Parce qu'il y a souvent deux matchs dans les rassemblements, donc c'était le deuxième match. Le gros match c'était France-Pays-Bas où Kolo Muani avait été préféré. Il avait joué le Grèce-France de deux partout, qui était aussi le deuxième match après le France-Gibraltar 14-0 où il avait pas démarré. Il avait été mis sur le banc sur France-Allemagne et il avait joué France-Chili, donc le 2-0 avec Marcus Thuram à Lyon. Il n'avait pas joué, il avait joué au Vélodrome sur le France-Chili. Et là, il ne joue pas le France-Luxembourg. Donc il va sûrement peut-être démarrer le France-Canada, qui est le plus gros match du rassemblement. Mais sur ce que nous envoie comme signaux, quand même, Deschamps là-dessus, c'est que j'ai l'impression qu'il travaillait quand même.
Et je te dis, hier, ce qu'il dit sur Marcus Thuram et sa complémentarité avec Mbappé, c'est pas anodin, quoi. Je pense qu'il aime les associer, il aime les voir bosser.
Mais là où je suis d'accord avec notre auditeur, c'est que ça reste la solution la plus fiable aujourd'hui. Même à cet âge-là, après le gros problème, c'est que toute une compétition, il faudra voir les rentrants. Et un joueur comme Barcola, pour moi, va être très très important au fur et à mesure de la compétition. Il l'a encore montré hier. Donc il y aura peut-être une animation de départ. Il y aura sûrement une animation de départ et une animation.
Je parlais de Barcola à l'instant. Ça m'intéresse d'avoir l'avis de Maxime là-dessus, quoi. Barcola, c'est l'enfer défendre sur lui. T'étais pas sur lui précisément, mais t'étais quand même plutôt dans ta zone.
Oui, pour le coup, il était sur mon côté. Ouais. J'ai été très surpris par sa vitesse de pointe. Il va vite. Hein. Là, c'est je l'avais vu qu'à la télé pour le coup. Là, j'ai été surpris sur ses premiers pas. Mais c'est ce que je rejoins sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, j'appuie un petit peu. Je suis convaincu qu'il va gagner sa place de titulaire durant le tournoi.
Mais donc, tu sors qui à ce moment-là?
C'est une bonne question. Alors, tu sais, après, il y a aussi la sélection naturelle. Est-ce qu'il n'y aura pas des suspendus? Est-ce qu'il n'y aura pas des blessures? Je ne leur souhaite pas, mais je ne serais pas étonné que tôt ou tard, ils se mettent à jouer titulaire, que ce soit à gauche ou à droite. Je ne sais pas exactement. Mmh.
Parce que moi, je crois en Barcola. Je crois en sa capacité à pouvoir manger des minutes au fur et à mesure de la compétition. On ne sait pas s'il va démarrer contre le Canada, par exemple, s'il fait un gros match contre le Canada.
Ça peut aller vite, ouais.
Ou contre l'Autriche, si ça se passe mal sur le premier match. On perd 1-0. Bon, c'est de la science-fiction, mais il rentre, il égalise.
Connaissant Didier Deschamps, vaut peut-être mieux pas commencer l'Euro si tu veux le terminer.
Exactement, c'est une très très bonne analyse. C'est souvent le cas. On se rappelle de France-Australie en 2018, en 2022. C'était quoi en 2022 les premiers matchs?
Il y avait pas France-Australie aussi.
C'était l'Australie aussi, pareil.
Ah oui, c'était France-Australie aussi. Oui, bon, c'était un peu mieux passé. C'était un peu mieux passé, mais c'est vrai que t'as le sentiment qu'il y a des joueurs qui peuvent émerger. Mais le problème, c'est que contrairement au Paris Saint-Germain, moi la seule crainte que j'ai pour Barcola, c'est que pour moi, les clés du camion, c'est Mbappé qui les a véritablement. Autant avec Luis Enrique, c'était différent. Autant avec Didier Deschamps, on l'a vu pour le brassard de capitaine. On le voit pour beaucoup de choses. C'est où est-ce que Kylian Mbappé veut jouer et comment il veut jouer. Et est-ce que mettre Barcola, ça veut dire Barcola, il a deux solutions, soit il joue à droite, soit il joue à gauche.
Donc je crois quand même Deschamps capable de d'expliquer à Mbappé de manière
très pédagogique. Tu vas jouer neuf.
Après il y a la réalité de terrain. Hein.
Il a accepté au PSG, il a accepté à Paris. Parfois de jouer neuf aussi, tu vois.
Qu'est-ce qu'il fait ? Il ferait la Real,
il va bien jouer.
Ouais, ouais. Mais c'est pas, tu vois. Mais il ferait la même folie que Luis Enrique, donc de mettre en neuf Mbappé.
Non, mais tout ça peut évoluer pendant la compétition.
Il y a pas de folie parce que tu sais très bien que Mbappé, de toute façon, avec Deschamps, il aura énormément de liberté, donc il jouera un peu où il veut.
C'est pour ça que c'est intéressant de compenser. C'est pas une histoire de numéro 9, c'est une histoire d'homme libre.
Oui.
Et encore une fois, le positionnement de Mbappé en neuf.
Mbappé libéré.
Libéré.
En plus, il est libéré.
Libéré, délivré. Libéré, délivré.
C'est ça.
Mais ce serait bizarre qu'il soit très bon au poste de numéro 9 en équipe de France.
Damien, vas-y, conclure sur le sujet.
Ce que vous avez vu sur contre le Luxembourg, c'était un peu ça. Hein. Mbappé, il était libre. Des fois, on le voyait dans l'axe. Des fois, on le voyait à gauche. Des fois, Griezmann remontait plus haut. Ça fait qu'on jouait avec Thuram à gauche, Colomoigny à droite et Griezmann et Mbappé devant. Donc, en fait, dans l'animation offensive, ça peut changer. Ça peut devenir très intéressant parce que Didier Deschamps, il peut avoir plusieurs options en fonction des profils qu'il a. Et vous l'avez dit, Barcola aussi, en équipe de France, peut-être que son salut viendra sur le fait qu'il a une polyvalence devant. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. À Lyon, il a même joué neuf. Luis Enrique l'a jamais mis à Paris 9, mais à Lyon il a déjà joué 9.
Après ça,
il a
je pense
très
que
bon jeu de tête Barcola aussi.
Je mets pas un gros billet sur Barcola en équipe de France.
Merci Damien d'être venu.
Merci à vous. Bonne soirée.
À demain vite sur RMC. N'hésite pas à refaire le 32-16. Tiens, N'Golo Kanté, t'es déjà prêt pour l'Euro. J'ai récupéré ses stats hier soir. 55 minutes de jeu, 96% de passes réussies, 4 ballons récupérés, deuxième meilleur total de l'équipe de France en 55 minutes. 26 passes dans le dernier tiers du terrain. Deuxième meilleur total de l'équipe de France derrière Kylian Mbappé pour N'Golo Kanté.
Et j'ai vu 4 duels gagnés sur 4.
4 duels gagnés sur 4, exactement. 100% de duels gagnés pour lui. Vous l'avez senti comment? Bon. Désolé, hein, Max, c'était un match de préparation. Peut-être qu'il n'était pas 100% l'équipe de France. Peut-être que vous aussi, Luxembourg. Comment vous jugez sa prestation hier? Toi, Max, tu l'as trouvé comment, N'Golo Kanté?
Écoute, je l'ai trouvé plutôt bon. Pareil, avec beaucoup d'interrogations, parce qu'en arrivant d'Arabie Saoudite, tu ne sais pas exactement quel est son rythme. Mais bon, encore une fois, après, c'était que le Luxembourg. Voilà, il faut aussi remettre le contexte. Mais je l'ai trouvé bon, sérieux, appliqué. Alors, beaucoup de passes dans le dernier tiers du terrain, tu l'as dit, mais finalement, là, ils ont eu une possession du ballon assez haut. Donc, bon, c'est pas vraiment surprenant. Ça aurait été différent s'ils avaient joué une grosse nation et s'est retrouvé dans cette situation-ci. Mais non, je pense quand même, N'Golo Kanté, pardon, est indispensable à l'équipe de France dans son registre. Il va pouvoir soulager les joueurs de devant. Mais je l'ai trouvé, appliqué et sérieux, c'est les deux mots que je retiens.
Oui, et puis souvent on dit alors il joue en Arabie Saoudite. Ok, c'est vrai que j'ai regardé quelques matchs la dernière fois avec Emmanuel Petit, regardé un match d'N'Golo Kanté le jour de la liste et franchement le rythme était très très faible et c'était vraiment pas soutenu. Par contre, attention, N'Golo Kanté, comme je l'ai dit, il a fait quand même 44 matchs, même à un rythme modéré, sans se blesser. Il a joué en plus la fin de saison avec Chelsea, même si c'était que sur un mois et demi, mais il a quand même joué en Première Ligue la fin de saison. Et puis surtout, il faut pas non plus qu'on croie que l'Euro c'est la Ligue des Champions. Hein. L'Euro c'est pas la Ligue des Champions. Il y a aussi des matchs très moyens à l'Euro.
Ouais, mais avec une intensité quand même.
Par rapport à la Ligue des Champions.
Les premiers matchs.
Moi je suis pas sûr de ça. Hein.
Aujourd'hui l'Euro c'est plus l'Euro à 16. Hein.
Mais justement, c'est les premiers matchs sont des matchs plutôt faciles, c'est une certitude. Ah oui. Mais donc, derrière tu arrives vite.
Après, bien sûr. Enfin, tu joues Autriche Pays-Bas, c'est pas évident non plus.
Tu joues l'Autriche Pays-Bas, d'accord. Mais tu joues l'Autriche et les Pays-Bas. Tu joues pas encore l'Allemagne, le Portugal quand même.
Ouais, mais ça envoie. Moi je suis pas sur le terrain, hein. J'ai ni joué Ligue des Champions ni Euro.
Moi je trouve que
ce que les joueurs me disent, c'est qu'à l'Euro c'est tout de suite. Hein.
Ouais, enfin, mais d'accord, mais N'Golo Kanté, c'est un mec qui est habitué au très haut niveau depuis 15 ans.
Au niveau technique, c'est moins fort. Au niveau intensité physique, je pense qu'à l'Euro.
J'ai aucun doute sur le fait que N'Golo Kanté ait le niveau pour jouer l'Euro sur une jambe. J'ai aucun doute.
Moi je trouve que les pressings, après c'est peut-être une mauvaise impression. Et si tu peux nous contredire là-dessus, vu ton ressenti, ça serait hyper intéressant. Mais que de ma télé ou même parfois quand je vais au stade, parce que j'en ai fait des des euros au stade. J'avais vu Pays de Galles, Portugal notamment en 2016. J'avais eu ce type de match. Je trouve que les pressings des adversaires sont beaucoup moins forts, beaucoup moins résistants que ce qu'on peut voir en club, en Ligue des Champions, même en championnat, en Première Ligue. Après, je dis pas que c'est le match du coin.
On parle quand même de la compétition qui rassemble les meilleures nations, donc les meilleurs joueurs d'Europe. Donc, alors ça dépend. Est-ce que c'était le début de la compétition, la fin de la compétition? C'est la même chose en Ligue des Champions hein, quand tu joues.
La France a joué l'Islande en 2016. Ils ont joué la Roumanie. Ils ont joué l'Albanie.
C'est vrai.
Je suis désolé, mais l'Euro, je suis désolé, c'est plus ce que c'était. C'est plus l'Euro.
Après, là, t'as une poule intéressante quand même. T'as une poule à respecter. D'accord. L'Autriche, qui a avec un.
Sur Autriche, Pays-Bas et Pologne, dans une moindre mesure.
Ils sont éliminés par la Suisse quand même au dernier
Avec le pressing de Rangnick, les Pays-Bas, qui a quelques principes de jeu, etc. Intéressant, même s'il y a un vivier qui est plus aussi important. Donc. Là, il va falloir être prêt d'entrée, je pense, pour l'équipe de France, contrairement à 2016 ou 2020. Attention, 2021, parce que tu avais l'Allemagne et le Portugal.
2021, c'était un bon groupe, mais ils ont quand même été éliminés en 8e.
Pause.
Allemagne-Portugal.
Dans un instant, on va prolonger. Tiens, encore un mot sur N'Golo Kanté. On parlera également de ta vie aux États-Unis, en Californie. Maxime, tu restes avec nous, bien sûr.